Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
Depuis l'éclatement de la révolte populaire en octobre 2019, en réaction à une situation sociale explosive, la livre libanaise a perdu l'essentiel de sa valeur et les explosions de l'été 2020 dans le port de Beyrouth n'ont rien arrangé à la situation économique catastrophique. Cela donne tout son sens à l'action caritative que mène l'ONG libanaise Arc-en-Ciel, fondée il y a une trentaine d'années, notamment par notre invité Pierre Issa, que nous avons rencontré dans la capitale libanaise lors d'un précédent voyage. Il nous dira comment Arc-en-Ciel peut mener sa mission de promouvoir la diversité, l'intégration et le développement de manière différente. Une émission réalisée par Mathias Golchani que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Pierre Issa.
Bonjour Éric Bataillon.
Cofondateur de l'association Arc-en-Ciel, une structure de l'économie sociale libanaise que vous avez cofondée il y a une trentaine d'années environ. C'est une association à caractère social qui a d'ailleurs été primée à Davos, au forum de Davos en 2015 avec le prix de l'entrepreneur social. Pierre Issa, à quoi attribuez-vous la réussite de cette organisation ?
Alors, justement, cette organisation, depuis le début, a fonctionné à contre-courant. Au Liban, le travail social et de développement, parce que c'est une ONG pour le développement durable, le travail social au Liban a toujours été la chasse gardée des communautés confessionnelles. Et ça remonte au temps des Ottomans qui laissaient la gestion des affaires des gens aux communautés confessionnelles. Et c'est pour ça que nous avons des réseaux d'écoles catholiques, des réseaux d'écoles sunnites, etc. Pareil pour les hôpitaux, pareil pour les orphelinats, et ainsi de suite. Arc-en-Ciel a été à contre-courant, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Arc-en-Ciel, parce que c'est la symbolique, il y a toutes les couleurs et l'arc-en-ciel se lève pour tout le monde et pas pour les uns et non pour les autres. Et donc, je pense que c'est cette différence-là qui a fait que Arc-en-Ciel a réussi, bien qu'elle n'avait pas de superstructure pour la soutenir, comme les autres ONG qui avaient soit un parti politique, soit un leader politique, soit une communauté confessionnelle, ou une congrégation, ou même un pays étranger. Arc-en-Ciel, c'était deux pelés et trois tondus, avec les mains dans le cambouis jusqu'au cou, et on a commencé vraiment très petit, dans 20 mètres carrés, et là, nous sommes devenus une très grosse structure avec plusieurs entreprises sociales. D'ailleurs, nous avons commencé à travailler sur le modèle entrepreneuriat social avant que le terme et le concept entrepreneur social n'existent. Et comme nous étions inintéressants pour les donateurs, parce que les donations sont de deux natures, soit des donations privées, ça c'est les Libanais qui travaillent à l'étranger ou pas, et qui sont nantis, et soit l'argent public, et c'est en général l'aide internationale au développement. Comme nous sommes totalement apolitiques, et que les pays donateurs ne sont jamais comme Saint-Vincent de Paul, et donc ils ne pouvaient pas espérer un retour politique en aidant des gens comme Arc-en-Ciel. On avait très peu accès à l'aide internationale au développement dans les débuts d'Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et par contre, pour l'argent privé, aussi, quand quelqu'un est chrétien qui veut revenir en vacances à Noël au pays, le choix entre aider Caritas ou Saint-Vincent de Paul, une ONG chrétienne, ou Arc-en-Ciel, il choisissait l'ONG chrétienne. Et si un musulman venait pour Ramadan, les vacances de Ramadan, etc., le choix entre donner son zakat à l'orphelinat islamique ou à Arc-en-Ciel, il n'y avait pas photo, il choisissait. Et donc on se retrouvait, gros gens comme devant, sans argent privé et sans argent public. On a été obligé d'être le plus autonome et le plus indépendant possible. Et c'est là que le concept d'entrepreneuriat social a commencé, avant même que ce terme n'existe et ne soit... Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, malgré la taille qui est assez énorme, c'est en 7 chiffres les budgets d'Arc-en-Ciel, et nous sommes autonomes, ça dépend de comment on prend les choses avec ou sans investissement, entre 80 et 92% de notre budget, ce qui est assez exceptionnel dans ce métier.
Et vous êtes présent sur l'ensemble du Liban ?
Nous sommes présents sur l'ensemble du Liban, dans plusieurs secteurs d'activité, dans l'agriculture, dans le social, l'aide aux personnes handicapées, la santé, l'éducation, la jeunesse, l'écotourisme et autres. Et dans chacun des programmes, il y a plusieurs activités et plusieurs institutions sur tout le territoire national en fonction des besoins de chaque région. Mais nous sommes aussi présents en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Nous avons eu des programmes pratiquement dans tous les pays arabes, sollicités justement par la communauté internationale, par des ONG internationales ou des agences des Nations Unies ou de l'Union européenne. Nous avons aussi eu des actions en Macédoine, en Turquie, au Mozambique, en Éthiopie, en Érythrée, au Sri Lanka. Et nous avons ouvert, il y a quelques années, Arc-en-Ciel aux États-Unis et quelques années avant, Arc-en-Ciel en France à Lyon. Évidemment, ça aide pour le lobbying et pour la recherche de fonds, mais nous avons eu, notamment à Lyon, des actions d'entrepreneuriat social. Nous étions à la base de la création d'une entreprise qui s'appelle la Laiterie du Mont, qui était une sorte de réseau entre les éleveurs du Mont Lyonnais et certains quartiers où il y a des immigrés qui consomment beaucoup de lait cru. Et c'était une vraie réussite, en plus qu'on s'occupe de formation dans quelques écoles à Lyon et ailleurs.
Vous plaidez, Pierre Issa, pour une nouvelle génération d'entreprises davantage attentive aux répercussions de l'activité économique sur notre monde. Pour vous, une entreprise ne serait pas seulement une source de revenus ?
Certainement pas, certainement pas. Le problème, c'est la vision. Donc j'avais écrit entre autres justement à Davos une conférence où je disais, mais c'est en anglais, mais où sont passées les visions à long terme? Nous avons deux problèmes pour les visions à long terme. Premièrement, la démocratie est comme le pouvoir use et qu'il y a l'alternance. Et donc les politiciens qui ont besoin de se faire réélire, etc., n'ont plus de vision à long terme. Ils veulent performer immédiatement pour être réélus. Et pareil pour les entreprises qui, avec les nouveaux produits financiers, ont besoin de sortir des dividendes et des performances. Ça se calculait annuellement, maintenant ça se calcule par trimestre et ainsi de suite. Et donc, plus de vision à long terme. Les bonnes structures et les structures adaptées pour ramener un peu de vision à long terme, ça veut dire pour assurer la durabilité, ce sont les ONG et les entreprises sociales dont le seul but n'est pas le profit financier, pour pouvoir avoir des visions à long terme. Et si on n'a pas de vision à long terme, on va avoir des activités non durables parce qu'on va exploiter nos ressources beaucoup plus que leur capacité à se renouveler et que finalement, même économiquement, on va se casser la gueule. Donc, dans l'intérêt des profits, il faut avoir des visions à long terme et donc faire des activités qui ne soient pas basées uniquement sur la rentabilité immédiate.
N'y a-t-il pas une interrogation que l'on peut se poser avec l'activité d'Arc-en-Ciel qui vient finalement en ONG libanaise à aider à l'étranger alors que le pays, lui, est en grande difficulté économique aujourd'hui?
Tout à fait. Il y a d'abord plusieurs motivations à ça. Et une des motivations, et pas des moindres, c'est gagner en expérience, gagner en économie d'échelle. Parce que nous avons commencé par réparer des roues de fauteuils roulants. Et puis nous sommes mis à importer des fauteuils roulants de l'État-providence, et notamment de la France, etc., où les gens consomment. Et puis finalement, c'était des fauteuils et des aides techniques en relativement bon état, qu'on restaurait et qu'on distribuait. Et puis on a décidé de produire. Et évidemment, pour l'économie d'échelle, on a intérêt à grandir. Et si d'autres pays ont besoin, notamment les pays directement comme la Syrie, etc., c'était un must. D'un autre côté, l'humain est la valeur suprême pour nous. Donc, qu'il soit dans le même état-nation que nous ou à côté, etc., finalement, notre objectif, c'est l'humain et la personne au service de la personne, l'humain au service de l'humain. C'est une autre motivation. Troisièmement, quand on est sollicité par un pays ou par une agence de financement, ben, il y a un échange de bons procédés. C'est des ONG internationales ou des agences des Nations Unies, etc., qui sont nos partenaires ici et ils nous aident ici pour nos investissements. S'ils nous demandent d'intervenir ailleurs et que ça pourrait les aider, c'est un échange de bons procédés et c'est une question d'intérêt. Voilà.
Les Libanais sont à présent au bord du gouffre. Mais une plaisanterie orientale prétend qu'ils sont retenus par un très long élastique. Peut-être celui-ci s'est-il finalement rompu lors de l'explosion du port de Beyrouth, en août 2020. Une déflagration comme un coup de grâce pour un pays en faillite, plongé dans le chaos après des années de guerre civile et frontalière, de malgouvernance et de corruption.
Nous écoutions la voix de Yasmina Djoumblat et un extrait du documentaire diffusé sur France 5, Liban au cœur du chaos, d'Alfred de Montesquieu, que nous avions reçu dans l'émission il y a un peu plus d'un mois, le 21 novembre. Orient Hebdo, notre invité ce dimanche est Pierre Issa, personnalité politique et cofondateur de l'ONG libanaise Arc-en-Ciel.
Orient Hebdo sur RFI.
Pierre Issa, une question qui concerne la position d'Arc-en-Ciel par rapport aux aides étrangères qui sont arrivées au Liban, notamment pour aider tous les réfugiés, notamment les réfugiés syriens. Quelle a été votre position d'ONG? Est-ce que vous avez participé au programme qui était proposé notamment par les Nations Unies ou par l'Union Européenne?
Certainement, on a participé à tous ces programmes, que ce soit pour les réfugiés syriens ou d'autres. Loin de moi l'idée de critiquer l'aide internationale, au contraire, nous en sommes tout à fait reconnaissants pour ça. Mais je dois avouer qu'il y a certains dysfonctionnements et que souvent l'aide internationale, notamment en situation d'urgence, perturbe le marché, si je peux m'exprimer ainsi, perturbe le marché du travail parce que c'est beaucoup d'argent à dépenser en très peu de temps. Des ONG internationales viennent et perturbent le marché du travail, etc. Et pour des institutions pérennes comme les nôtres, Arc-en-Ciel a plusieurs institutions. Quand l'urgence est finie et que les budgets sont terminés, les ONG internationales se retirent ou les agences des Nations Unies deviennent moins actives. Mais nous, on reste là et les besoins sont encore là et on est seul à faire face. Et donc, il y a certains dysfonctionnements à cause d'une mauvaise compréhension. Et ça se comprend quelque part parce qu'on parle d'urgence. On parle d'urgence et donc... ça pourrait se comprendre qu'il n'est pas toutes les nuances du mode de fonctionnement, etc., que ce soit ou le marché du travail ou les aides données, ou bien les groupes cibles qu'il faut aider. Comme par exemple, au début de la guerre en Syrie et des déplacements en masse de population vers des pays comme le Liban, il y a eu beaucoup d'aides directement aux Syriens. Or, les communautés hôtes souffrent autant que les réfugiés, et les programmes n'étaient pas prévus comme ça, et il y a eu beaucoup de tensions pendant longtemps pour que... c'était une urgence qui a malheureusement qui s'est étalée dans le temps et qui a duré, donc on a eu le temps de faire un rééquilibrage et des négociations, que ce soit avec les agences des Nations Unies ou les grandes agences donatrices comme l'Union Européenne ou autres, qui se sont adaptées, mais ça prend du temps, et je dois avouer que nous, à plus d'une reprise, ça a perturbé notre mode de fonctionnement parce que, encore une fois, comme je vous dis, quand les programmes se terminent et s'en vont, nous, on reste en première ligne et les autres ne sont plus là, mais après avoir perturbé ce marché du travail.
Oui, sur la question des réfugiés, notamment réfugiés syriens, votre position, vous, c'était de dire on aide tout le monde, non seulement les réfugiés syriens, bien entendu, mais aussi ceux qui les accueillent au Liban, qui ont aussi besoin d'être aidés, parce que pour vous, aider, c'est aider tout le monde.
Tout à fait. D'ailleurs, Arc-en-Ciel s'appelle Arc-en-Ciel encore une fois, parce qu'il y a toutes les couleurs. On n'a pas attendu la guerre en Syrie pour aider tout le monde. Il y a toujours eu des Syriens au Liban, des travailleurs agricoles ou autres. Arc-en-Ciel a toujours aidé tout le monde sans discrimination. Et ce n'était pas parce qu'il y avait cette urgence-là ou cette catastrophe qu'on allait changer de politique. Pour nous, l'humain est la valeur suprême et nous aidons tout le monde sans discrimination, que ce soit des Suédois, des Européens, des Français ou des Syriens ou des Palestiniens et évidemment des Libanais. Nous avons toujours aidé tout le monde sans discrimination aucune et on n'allait pas changer cette approche et cette façon de faire juste parce qu'il y avait l'opportunité d'avoir de gros budgets.
Ce qui veut dire que justement, il peut y avoir du manque à gagner si vous refusez une mission et donc des aides financières des Nations Unies ou de l'Union Européenne.
Tout à fait. D'ailleurs, on a eu ça à plusieurs reprises, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne façon de faire. Et d'ailleurs, ces agences-là fonctionnent un peu de façon pachydermique, mais elles changent quand même. Elles changent lentement, c'est des superstructures qui ont besoin de temps pour changer leur mode de fonctionnement ou leur approche, etc. Mais c'est quand même des agences qui sont bien intentionnées et qui ont des objectifs bien précis. Et même si ça prend du temps, mais ça finit toujours par changer. Et même s'il y a encore certains dysfonctionnements, aujourd'hui il y a des dysfonctionnements par exemple à cause de la valeur de l'argent frais. Et donc dans une structure structure comme la nôtre où il y a plusieurs centaines de salariés, quand certains salariés sont comptabilisés sur un programme d'aide qui apporte de l'argent frais, ben ça fait de très grandes disparités au sein de l'institution. Et ça, ça crée un problème en interne et ça peut perturber le fonctionnement de nos institutions. Et on essaye toujours de trouver des solutions ad hoc parce qu'il y a urgence et qu'il faut aller de l'avant. Et à part la solution ad hoc, on fait un travail de diplomatie et de négociation pour que les programmes d'aide changent leur approche. Vous imaginez aujourd'hui une personne qui encaisse 1000 dollars au Liban, les 1000 dollars libanais ne valent plus grand-chose. Et si son collègue qui est comptabilisé sur un programme où l'argent arrive en frais, comme on appelle ça au Liban, et ils sont tous les deux à 1000 dollars, mais l'un va encaisser 15 fois plus que l'autre. Et ça, c'est pas normal. Et donc, on est en train de trouver des solutions ad hoc en attendant de formaliser et de négocier avec les agences donatrices une solution à ce genre de problème.
Pierre Issa, vous dites que vous êtes rétif à l'autorité. Vous l'avez écrit et vous l'avez dit dans des interviews. N'est-ce pas l'autoritarisme que vous craignez avant tout ?
Certainement. Certainement, l'autoritarisme, je crois, est à la base de beaucoup des dysfonctionnements que nous vivons. Mais heureusement, aujourd'hui, avec l'évolution, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., les enfants, l'éducation, les systèmes d'éducation, je pense que l'école et l'université, qui sont en fait des modèles de fonctionnement assez dirigistes, finalement, avec des cursus extrêmement bien bouclés, bien ficelés, etc., tout ça est en train de changer et de changer à la vitesse grand V. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore de système de remplacement et donc nous vivons une sorte d'accouchement dans la douleur. Et nous sommes en plein dans les contractions. Et c'est tous les systèmes qui gèrent nos sociétés modernes qui sont en fin de parcours. La démocratie comme système de gouvernance est en fin de parcours et nous vivons un accouchement dans la douleur parce qu'il n'y a pas encore de système de remplacement. C'est pareil pour le libéralisme et nous vivons aussi parce qu'il n'y a pas de système de remplacement et ces contractions s'appellent les bulles qui explosent, les nouveaux produits financiers qui créent des riches mais pas des richesses et ainsi de suite. Pour l'éducation et l'université, l'école aussi, c'est en fin de parcours. Et les contractions s'appellent tous les Erasmus et les échanges. Et vas-y que je te fasse 6 mois à Singapour et 6 mois à New York et les crédits américains et les crédits européens, etc. C'est en train de changer. Et même l'État-nation en modèle de gestion du vivre ensemble est en fin de parcours. Et ça vous fait des unions européennes et puis des Brexit et tout ça. Tout ça, c'est les contractions de l'accouchement dans la douleur de nouveaux systèmes pour gérer nos sociétés modernes. Et je pense que l'autoritarisme est devenu de notre âge.
Merci Pierre Issa.
Merci à vous Éric Bataillon.
Co-fondateur de l'association Arc-en-Ciel et secrétaire général du Bloc National, parti politique libanais, laïque, social, démocrate et aconfessionnel. There are people that are home. They are watching TV show. They like playing with my thought. They like to tell. There are people that are home. They are watching TV show. They like playing with my thought. They like to tell.